cadre des élections législatives anticipées qui arrivent, nous avons souhaité réaliser des interviews de chacun des candidats pour la première circonscription de Corrèze. Nous avons fait comme nous avons pu, dans le temps qui nous était imparti, comme les candidats eux-mêmes. Il y a donc des différences de qualité sonore, mais nous avons essayé tout de même d'être le plus juste possible en termes de temps et de sujets. Et nous espérons néanmoins que ces interviews vous aideront à y voir plus clair. Marie-Thérèse Coineau, candidate lutte ouvrière. Bonjour Madame Coineau, Marie-Thérèse Coineau, vous êtes donc candidate pour les législatives anticipées 2024 qui vont se dérouler donc le 30 juin et le 7 juillet. Je propose déjà qu'on rentre par quelque chose qui va peut-être moins intéresser les gens, mais au moins c'est fait. On va parler de pourquoi vous êtes à part du reste de la gauche, on va dire, et c'est un choix, et est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix de vouloir ne pas être représenté dans le nouveau Front populaire et de porter votre propre voix.
Nous, on ne pense pas qu'un gouvernement peut changer quelque chose. Ce n'est pas le gouvernement qui décide, ce sont les milliardaires. Alors, on a déjà vu la gauche au pouvoir plusieurs fois. Elle a été au garde-à-vous devant les milliardaires. Elle a accepté tout ce qu'ils demandaient. Et finalement, les travailleurs, ils en ont subi des conséquences parce qu'il y a eu des dégradations. On ne va pas remonter très loin, mais ne serait-ce que sous le mandat de M. Hollande, il y a eu la loi travail qui a quand même plus qu'escamoté le code du travail, ne serait-ce que ça. Hein, et puis beaucoup d'autres choses aussi. Donc nous, on pense que les choses ne peuvent que changer. Par les luttes, par les grèves, quand les travailleurs ils produisent les richesses et s'ils veulent pouvoir voir leur salaire augmenter, ce qui leur permet de vivre un petit peu mieux, il faudrait même l'indexer sur l'inflation, le salaire, et pour ça il faudra l'imposer au patronat. Il ne s'agit pas de dire « moi je ». Les promesses, elles n'ont jamais aidé la population à mieux vivre. Les promesses qu'on nous fait, elles ne nous protégeront pas des bombes, des guerres qui sont en train de se préparer, voire une troisième guerre mondiale. Hein. Voilà, mais il faut qu'on se réunisse, qu'on discute, qu'on s'organise et qu'on mène des luttes, des grèves. C'est pour ça qu'on se présente, pour défendre un programme de lutte.
Alors avant qu'on rentre plus précisément dans des questions qui sont plus locales, pour expliquer aux gens, vous proposez quoi de différent du reste du programme du Nouveau Front Populaire? Sur quoi vous n'êtes pas d'accord et sur quoi vous voulez aller plus loin ou pas forcément?
Je peux résumer assez rapidement. Les promesses ne servent à rien. C'est des promesses qui ne sont jamais tenues, qui déçoivent les gens, qui les démoralisent. Et si aujourd'hui l'extrême droite, elle en est arrivée à faire avoir autant d'électeurs, eh bien c'est parce que les travailleurs, ils sont démoralisés. Toute la politique de la gauche, quand elle a été au pouvoir, Mitterrand, Jospin, Hollande, oui, ça a démoralisé les travailleurs. Et donc, ils n'ont plus confiance. Ils ont raison de ne plus avoir confiance. Et c'est pour ça que nous, on ne veut pas se présenter. On veut pas... Nous, si on était élus, on voterait. S'il y avait quelque chose à l'Assemblée nationale, on voterait. S'il y avait quelque chose qui était correct, hein, qui pouvait être un progrès. Mais on serait surtout les yeux et les oreilles des travailleurs. Et on dénoncerait tout. On le mettrait sur la place publique, que les gens puissent s'en emparer. Ce n'est pas ce qui se passe, là.
Juste une petite question, est-ce que vous êtes quand même contente, vous personnellement ou à la lutte ouvrière, du fait que peut-être que Philippe Poutou aura une chance, lui, il aura peut-être la chance d'arriver à l'Assemblée, il aura une parole aussi d'ouvrier, est-ce que vous saluez aussi ce choix-là de l'avoir aligné?
Eh bien, ce que je trouve, c'est surtout qu'il aille le noyer avec tout le réformisme du reste de ce nouveau Front populaire. Je le regrette, oui, je pense qu'il aurait mieux valu qu'il se présente en indépendant et qu'il défende une autre politique, quoi.
Qu'il aurait dû rester aligné sur les précédentes élections du NPA.
Oui, alors bon, si on est deux organisations, oui. C'est parce qu'on n'a pas exactement le même point de vue. Mais je ne crois pas que ce soit un progrès quand des organisations qui se disent communistes révolutionnaires se rangent dans le tiroir des réformistes, voilà.
D'accord. Alors, juste avant, vous nous parliez de justement indexer les salaires des travailleurs. C'est une des mesures que vous portez le plus en avant. Moi, je vous propose qu'on fasse un petit bilan de. Enfin, si on fait un petit bilan rapide de la pauvreté en France, il y a quand même 15% des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est 990 euros le seuil de pauvreté. En Corrèze et dans le Limousin, dans les moins de 30 ans, on arrive jusqu'à 20, 25, 30% à certains endroits, surtout dans les milieux ruraux. Désindustrialisé. Vous portez quoi, à part l'indexation des salaires sur l'inflation, qu'est-ce que vous portez comme mesure pour aider les personnes à retrouver un emploi et à, par exemple, aussi accéder à un logement et les gens ont des inquiétudes sur ce point-là.
Bien sûr, la vie, elle est difficile pour beaucoup de gens, mais se nourrir, c'est un vrai problème pour beaucoup de familles, même quand les gens travaillent. Et avoir un logement aussi. D'abord, il n'y a pas assez de logements sociaux. Au lieu de mettre de l'argent à fabriquer des armes, à préparer la guerre, il vaudrait mieux construire beaucoup plus de logements sociaux à des prix abordables. Mais après, nous, quand on dit qu'il faut indexer les salaires, c'est les salaires, les retraites, les minima sociaux, les allocations, c'est tout ce qui nous permet d'essayer de vivre. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faudrait minimum 2000 euros par personne aujourd'hui. Enfin, je n'ai pas refait le calcul depuis toute l'inflation. Mais c'est bien sûr que les gens, ils ont à peine de quoi survivre très souvent. Souvent, la voiture, elle reste à la maison parce qu'on n'a plus d'argent pour mettre de l'essence dedans. Donc, on ne peut plus aller au boulot parce que le boulot, il est trop loin. Et quand on va faire les courses, eh bien, oui, on s'arrête très vite de remplir le panier parce qu'on n'a pas d'argent. Et ça, ce n'est pas normal. On est dans un pays très riche. Voilà. Et nous, on pense que les travailleurs, ils produisent des richesses, et ceux qui ne les produisent pas ou plus parce qu'ils sont à la retraite, bon, mais ils en ont produit suffisamment pour pouvoir bénéficier de revenus corrects tout le temps, ceux qui sont au chômage, eh bien, c'est pas normal. Parce que, franchement, on donne un travail à tout le monde. Tout le monde travaillera moins. Il y aura moins de cadences infernales. Où est le problème? Il faut le répartir, le travail, entre tout le monde. Et puis c'est tout. Les actionnaires, ils auront moins d'argent. Mais je ne crois pas que ce soit un problème, moi.
Donc vous feriez comme, sans comparer, mais comme le Front Populaire, ça serait d'aller chercher dans les gens qui sont actionnaires des grandes entreprises pour aller chercher leur capital?
Alors moi, on ne parle pas à Lutte Ouvrière de faire on n'a pas l'idée de faire comme le Front Populaire, de ce qu'ils promettent d'ailleurs et qu'ils savent qu'ils ne pourront jamais tenir. Non, nous, on pense que c'est s'organiser, lutter, faire des grèves, décider nous-mêmes de nos revendications qui pourra changer quelque chose. D'ailleurs, le Front Populaire des années 36, c'est pas Blum et sa clique qui ont obtenu quelque chose, c'est les travailleurs qui ont occupé les usines. Eh bien, il faudrait refaire pareil, voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose.
Et alors aussi, dans ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, il y a la question des factures d'énergie qu'on n'arrête pas d'exploser depuis un moment, notamment depuis la guerre en Ukraine, qui peut à tort ou à raison, être prise comme une justification valable ou non. En tout cas, là, on va encore voir 10% d'augmentation sur les factures d'électricité et de gaz. Vous, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez élu?
Eh bien, si on était élu, on essaierait d'entraîner les gens à se bagarrer pour que... est-ce qu'il y a une raison que l'électricité, le gaz, il augmente? On ne manque pas d'électricité, on ne manque pas de gaz. C'est la rapacité des actionnaires de ces entreprises qui fait ça. Eh bien, justement, à ce moment-là, si les employés des services de gaz, alors il y a plusieurs entreprises maintenant qui en vendent, d'électricité aussi, ils se mettaient en grève. Et puis si nous, on les soutenait, on faisait grève dans tous les autres secteurs d'activité, eh bien, rapidement, ils préféraient nous vendre leurs marchandises moins chères et augmenter les salaires que de continuer à... Il y a des gens, ils se chauffent à peine. Il y a des gens, ils ont 13, 14 degrés chez eux tout l'hiver. Alors, on met des pulls, on s'habille, mais c'est pas normal. À la période où on vit, c'est pas normal.
Oui, que les personnes doivent se restreindre.
Il y a des gens âgés, même des gens jeunes, qui sont handicapés, qui sont souvent immobilisés, qui ne bougent pas beaucoup. Si vous restez à 13, 14, 15 degrés chez vous, bon, ben, c'est la galère tout l'hiver, quoi. Même s'il ne fait pas peut-être moins froid qu'il y a 50 ans, là. Mais quand même, non, moi, ça me révolte vraiment, ça.
Alors, juste, concrètement, qu'est-ce que vous préconisez là-dessus, à part, dans la lutte, comment vous la mettez en place et qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but final là-dessus?
comme but final là-dessus, il faudrait pouvoir atteindre justement que les prix d'abord. Tiens, on pourrait en décider, nous, des prix et contrôler pourquoi c'est cher. C'est ça aussi. Il faut la contrôler, cette société. Il faut contrôler ce qu'ils font, pourquoi ils le font comme ça, pourquoi ça coûte tel prix. Ils mettent notre grain de sel. Voilà, alors on aurait vite trouvé. Hein. C'est parce qu'il y a des profits mirifiques, c'est tout. La plupart du temps, c'est pas parce que c'est extraordinaire à fabriquer ce qu'ils fabriquent ou à amener du gaz, à amener de l'électricité. Bon, on sait faire quand même depuis longtemps, ça.
Et alors, pour venir à des sujets qui sont peut-être plus locaux, par exemple sur l'agriculture, on a une agriculture un peu particulière ici avec l'élevage, etc., et qui est assez, qui est la partie de l'agriculture qui prend le plus de coûts, on va dire. Comment on fait pour la soutenir, cette agriculture ici? Vous, si vous étiez élu, qu'est-ce que vous feriez pour la soutenir et l'aider aussi à changer de forme ou pas?
Alors pour nous, le mot travailleur, s'il y a les travailleurs qui travaillent dans l'industrie, enfin dans les usines, dans les bureaux, à la SNCF, dans les hôpitaux, partout, et il y a aussi les travailleurs qui travaillent la terre, qui vivent de leur travail à la terre, et je pense qu'ils font partie intégrale des travailleurs, et bien, eux aussi, il faudrait sans doute qu'ils puissent mener... Je pense pas qu'un petit agriculteur, un petit éleveur, ça le fasse rêver d'attendre que la PAC ou je ne sais qui leur donne un petit truc, là, une miette. Non, ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir vivre de leur travail. C'est pareil, mais c'est parce qu'ils sont mangés par les plus gros. Voilà, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on se bagarre collectivement, tous ensemble, et décider tous ensemble de ce qu'il nous faut.
Est-ce que, justement, vous, à la lutte ouvrière, c'est compliqué d'atteindre ce public ou pas? Est-ce que vous avez vous sentez que la parole que vous portez, elle est entendue là-bas et elle est soutenue ou pas, dans ce milieu-là?
On connaît peut-être plus de gens dans l'industrie, chacun dans nos familles, on connaît bien un peu des gens qui... Enfin, en Limousin, il y a quand même encore des agriculteurs, donc on en connaît quand même tous. Et puis, même d'ailleurs, alors après, il y a les petits agriculteurs, mais il y a quand même des trucs importants, même en Limousin, il commence à y en avoir. Et il y a des travailleurs salariés aussi. Et justement, on n'en parle pas beaucoup d'eux. Et moi, ça me dérange.
Les ouvriers agricoles, c'est
oui,
ça ?
Oui, les ouvriers agricoles, c'est difficile, c'est dur ce travail-là. Bon, ils sont très peu payés.
Et alors, aussi sur une autre forme d'agriculture, si on peut dire comme ça, c'est l'agroforesterie, qui est très présente dans le Limousin et notamment en Corrèze. On parle souvent ces derniers temps du problème des coupes rases et aussi de l'industrie qui en découle avec, par exemple, Fargebois qui va encore s'étendre. Vous, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir, encore une fois, là-dessus? Essayeriez de réduire la voilure des entreprises industrielles là-dessus, ou qu'est-ce que vous feriez?
Alors, moi, je pense que le système capitaliste, il n'est pas viable. Il ne répond pas aux besoins des populations à l'échelle de la planète. Ce qu'il faudrait, c'est que ce soit ceux qui fabriquent les richesses, c'est-à-dire les travailleurs, et à l'échelle de la planète, on est bien d'accord, qui décident de qu'est-ce qui fait besoin et comment on le fabrique. Oui, parce que la planète, il est grand temps d'en prendre soin. Et c'est un problème, c'est un réel problème. Moi, je pense que le réchauffement climatique, il existe, mais les industries, les grosses boîtes, elles n'en ont rien à faire. Elles sont même capables de demander des subventions pour travailler vert, je vais dire. Voilà, c'est un peu leur terme. Hein. Mais c'est scandaleux, parce qu'ils les emploient pour faire autre chose. Peut-être les redistribuer aux milliards à leurs actionnaires, je ne sais pas. Mais... C'est une société qui... Cette société, elle n'est pas viable. Elle n'a aucune logique. Elle ne respecte rien. Que, je ne sais pas moi, combien il y a de milliardaires en France, il n'y en a pas beaucoup. On est 27 millions de travailleurs. Et bien, c'est à ceux-là à décider. C'est pas quelques personnes qui se gavent toute la journée de notre travail, qui nous volent les richesses qu'on fabrique. Les richesses qu'on fabrique, elles devraient servir à embaucher dans les écoles, dans les hôpitaux, à construire des logements sociaux, à entretenir les routes, à ce qu'il y ait possibilité de faire du sport, de se cultiver, enfin bon, tout ce qui peut nous être utile et indispensable. à la population.
Alors justement, une chose qui est indispensable à la population, c'est l'eau, l'accès à l'eau.
L'accès à l'eau.
Et en ce moment, bon, alors, c'est peut-être pas le bon moment pour parler de ça, mais il y a une vraie crise de l'eau quand même en général. On a vu, ça fait plusieurs années qu'on voit sur le plateau, notamment le plateau de Millevaches, des sécheresses qui amènent des communes à ne plus avoir d'eau au robinet. Qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on évite cette situation de crise de l'eau?
Alors moi je ne sais pas comment on peut faire pour l'eau, je n'ai pas de connaissances dans ce milieu, mais je pense qu'il y a des scientifiques, qu'il y a des chercheurs qui sont capables de trouver des solutions et que peut-être il aurait fallu commencer il y a déjà un certain nombre d'années à se poser le problème. Alors bien sûr on peut enlever le sel de l'eau de mer, mais est-ce que
la désalinisation.
Oui, voilà, c'est ça, oui, je ne prononçais pas, j'avais peur de pas le dire. Comme il faut. Mais vous pourrez fondre à l'enlever, ça. Mais après, non, moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, vous savez, c'est révoltant parce que justement, tiens, vous avez des trusts, là, des capitalistes, ils vendent de l'eau en bouteille qui est polluée. Et ça continue. Hein. On l'a découvert, ça fait longtemps d'ailleurs. Il n'y a pas moins longtemps qu'on le sait parce que justement, on ne nous dit pas. Les saloperies, hein, et ils continuent à vendre, voilà, et ça vous paraît normal, ça? Bon, un agriculteur qui vendrait de la viande pourrie, contaminée par je ne sais quoi, au bout d'un moment, on lui dirait, bon, là, t'arrêtes, hein, bon.
Oui, parce qu'il y a aussi la qualité de l'eau qui est en jeu.
Mais bien sûr qu'il y a la qualité de l'eau, ils le savent quand même, bon, les trusts qui vendent l'eau en bouteille, en plus c'est cher, leur eau, elle est chère, mais ils le savent qu'il y a des saloperies dans leur eau.
Et alors, juste pour revenir sur quelque chose qui a l'air de vous tenir à cœur, c'est la question de la guerre et de la paix. Quelle voix vous voudriez porter à l'international sur des questions qui se passent, par exemple en Ukraine et en Palestine, ou dans d'autres conflits ailleurs, ou dans d'autres situations tendues? Quelle voix vous portez?
Alors écoutez, d'abord, nous on est internationalistes, et on pense qu'il faut supprimer les frontières. Il faut pas qu'il y ait de frontières entre les travailleurs, entre les populations. Déjà, ça diminue le risque de guerre, parce qu'on se rend compte qu'on a tous les mêmes intérêts, les travailleurs. Après, il y a les gros exploiteurs. Voilà. Mais il n'y a aucune raison qu'on accepte que la jeunesse, et puis même toute la population, elle fasse de la chair à canon. C'est pourquoi qu'on va aller faire de la chair à canon? Parce qu'ils se disputent des marchés, parce qu'il y a une crise économique, qu'ils n'ont plus de marché, et bien qu'ils se débrouillent. Mais ce n'est pas à nous d'aller faire la guerre. Cette guerre-là, pourquoi elle a lieu, la guerre en Ukraine? Parce que finalement, alors moi je ne défends pas Poutine, hein, c'est un dictateur, hein, je suis très claire là-dessus, mais parce que quand même les pays de l'OTAN, ils avaient envie de voir s'il n'y avait pas des marchés possibles en Ukraine. Donc voilà, hein, et ils ont mis quand même des bases militaires un peu tout autour de la Russie. Ah ben, ce qui devait arriver, arriva. Voilà. Mais n'empêche que c'est la population en Russie et la population en Ukraine qui en subissent les conséquences aujourd'hui. C'est quand même révoltant. Et je pense que c'est pareil pour la population en Israël. Oui, parce qu'elle paye la guerre. La population en Israël, elle paye la guerre, elle aussi. Et les Palestiniens, ça fait plus de 70 ans qu'ils se font... oui, que c'est un carnage contre cette population. Il n'y a rien qui le justifie. Ah, mais c'est... Israël, il sert de gendarme aux pays impérialistes, les USA, la France, l'Angleterre et tous les autres. Voilà, Israël tout seul, il pourrait pas avoir tout cet armement, c'est parce qu'il est aidé. Et c'est choquant quand même. Voilà.
Et juste pour rappeler et pour resituer dans le contexte, il y a au moment où on a découvert dans la guerre en Ukraine les carnages de Boutcha, je ne sais pas si vous vous souvenez,
oui.
Que l'armée russe aurait ou a fait. Je suis pas spécialiste du sujet, mais en tout cas il y avait un accord qui avait été plus ou moins trouvé entre les parties, entre l'Ukraine et la Russie, pour faire la paix et se mettre d'accord sur un plan de répartition des territoires. Et les États-Unis et l'Angleterre ont poussé l'Ukraine à refuser pour continuer la guerre. Donc c'est juste, voilà, c'est, les auditeurs pourront aller chercher si ça les intéresse. Au-delà de la guerre et de la paix, en ce moment avec l'extrême droite qui monte, une question qui est centrale dans le débat, c'est aussi la question du racisme. Vous, quelle voix vous portez là-dessus?
Mais je vous ai dit qu'on était internationaliste, donc nous on pense que... Vous savez, quand on est sur une chaîne de montage, moi j'ai travaillé 30 ans à l'hôpital, hein. Je travaillais avec des collègues qui venaient de différents pays, hein. Et bien franchement, je ne voyais pas la différence entre elle et moi, elle faisait ou eux, parce qu'il y avait des garçons aussi. On fait le même travail quand on est au boulot. Enfin, vous n'allez pas vous poser la question si votre collègue il est portugais, s'il est guinéen, s'il est russe. Non, c'est un travailleur comme vous. Mais bien sûr que le racisme, c'est quelque chose qui gangrène la société, qui nous divise. Et c'est un virus qu'il faut... Il faut trouver l'antibiotique pour le supprimer.
Donc si je comprends, face au racisme, il faut être clair sur les questions d'antiracisme.
Mais bien sûr qu'il faut être très clair, oui, il faut être très clair. La société, elle est divisée en deux camps. Ceux qui exploitent, et je parle des grosses entreprises, là, je parle des trusts, là, je ne parle pas du petit commerçant ou du petit artisan, et ceux qui font le travail, ceux qui produisent des richesses. Et nous, on pense que c'est ceux qui produisent les richesses qui savent comment il faut la diriger, la société. Et on pense qu'il faudra exproprier ces grands trusts. Le capitalisme, il ne faut plus qu'il existe, cette économie, il ne faut plus qu'elle existe. Et les travailleurs, ils devront diriger la société, sinon il n'y a pas d'avenir. Vous voyez bien, c'est la guerre, c'est le réchauffement climatique, c'est... on aurait pu penser que les guerres, maintenant, c'était pas chez nous. Eh bien si, ils préparent une guerre mondiale, là, parce qu'ils n'ont pas de solution, les capitalistes, ils n'ont pas de solution dans cette société. Vous voyez bien, ils n'embauchent pas dans les hôpitaux, ils ferment des lits, c'est la tête, quoi. Ça marche sur la tête, oui, ce système.
Donc, selon vous, c'est le capitalisme qui pousse la montée de l'extrême droite ?
Alors, le capitalisme, je l'ai dit l'autre fois, c'est vrai que je pense que l'extrême droite, elle monte en France, mais il y a d'autres pays. Alors après, je ne vais pas parler exact pour tous les pays, mais en France, on a plus qu'à... Vous savez, quand Mitterrand s'est présenté, donc ça fait longtemps déjà, mais le Front National, il faisait même pas 1%. Et la déception a fait que... Je ne me souviens plus, 83, 84, je ne sais plus bien quelle élection c'était. Il était arrivé à, je ne sais plus, 7, 8%, 10%, peut-être, je ne sais plus. Voilà, c'était clair quand même que c'était la déception de la politique que menait la gauche qui commençait à faire monter l'extrême droite. Et ça n'a que fait aller en s'amplifiant, c'est tout.
Donc pour vous, la déception que la gauche a amenée à ses électeurs a fait monter l'extrême droite ?
Oui, à ses électeurs et puis à ses militants aussi. Moi, j'ai vu des militants démissionner parce que oui, soit ils militaient au Parti Socialiste, soit au Parti Communiste, hein, parce que tout le monde, sous Mitterrand, il y avait quand même quatre ministres communistes. Oui, ça a déçu les gens, ça les a désorientés complètement. Les gens, ils y croyaient. Et je peux vous dire que moi, je militais déjà à Lutte Ouvrière, quand vous disiez à un collègue « Oui, mais tu comprends, ça sera quand même pareil. » Non, c'est qu'il... Enfin, tout ce que j'ai expliqué, ils pensaient que c'était pas vrai. Et bien oui, si, mais ces gens-là, ils ont été déçus. Si vous n'avez pas un programme qui puisse être réel, ben oui, vous êtes déçus quand ça vous retombe sur la tête.
Donc c'est pour ça, pour revenir sur nos pattes, c'est pour ça que vous n'êtes pas allié au Nouveau Front Populaire.
Ah ben oui, absolument pas, non, mais moi je le dénonce même ça. Je le dénonce. En plus, bon, on a un exemple là quand même. Hein. Un candidat, M. Hollande. Bon, qu'est-ce qu'il a fait quand... Est-ce qu'il a fait quelque chose pour la population, M. Hollande ? Est-ce qu'il a... c'est pas... rien.
Vous voulez dire au niveau de la Corrèze ou en général ?
Mais non, en général. En général, vous croyez... Enfin, il a démoli le Code du Travail. Le Code du Travail, il n'était pas si extraordinaire que ça comme avantage quand même. Mais il l'a démoli. C'est pire que tout.
Ouais, ok. Eh bien, parfait. Merci beaucoup.
De rien.
Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Marie-Thérèse Coano, d'avoir été avec nous. Et puis, bonne campagne.
Merci. Merci de m'avoir invité.
Merci à vous d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos entretiens avec les candidats sur le site internet de Bram FM.